Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce C'est dans l'air en direct. La France découvre Gabriel Attal dans son nouveau costume de Premier ministre. Depuis sa nomination, il occupe le terrain dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés dans le registre de la compassion. Cet après-midi, dans un commissariat du Val-d'Oise, aux côtés de Gérald Darmanin, avec cette fois un message de fermeté. Je ne conçois pas une société sans ordre et sans règles, a-t-il dit. Alors qu'hier, c'est aux classes moyennes qu'il adressait un message. Le jeune chef du gouvernement travaille en coulisses avec le président à la constitution d'un nouveau gouvernement, avec des ténors qui doivent quand même encaisser cette nomination. François Bayrou, par exemple, exprime publiquement ses réserves sur le manque d'expérience nécessaire pour être à la hauteur d'un pays qui traverse de si profondes difficultés. Attal, premier pas, premier choix, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À la une aujourd'hui, Gabriel Attal, le pari audacieux de Macron. Nathalie Saint-Cricq est avec nous. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre livre, L'ombre d'un traître, aux éditions de l'Observatoire. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, qui titre aujourd'hui sur le pari Attal. Et je cite votre dernier article sur le remaniement, un nouveau Matignon pour la punchline et le faire savoir. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi ce titre. Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On a quelques éléments de la méthode Attal. Tout de suite sur le terrain, Yves Tréhard, et tout de suite dans l'action. C'est un classique du gouvernement, du
Premier ministre qui vient d'être nommé. Oui, parce que sa prédécesseure, ça avait été le cas aussi. Vous savez, elle était partie tout de suite, pareil, en région parisienne. Elle s'était entretenue avec des enseignants, si je me souviens bien. C'est là où elle avait dit qu'elle voulait que les petites filles...
C'est un classique.
C'était un classique, oui, c'est assez un classique. Alors là, il y a des choses supplémentaires quand même. D'abord, il a voulu montrer qu'il avait, probablement hier après-midi, quand il est allé dans le Pas-de-Calais en fin de journée, un visage et une technique différente, une méthode d'approche différente de celle de sa prédécesseure.
En quoi ?
Beaucoup plus empathique avec les sinistrés du Pas-de-Calais, beaucoup plus rond, beaucoup plus souriant, beaucoup plus tactile, si je puis dire. C'est sa technique et il sait très bien y faire pour ça. Cet après-midi, il est avec le ministre de l'Intérieur sortant, entrant.
Alors oui.
Il y a ça comme ça. Il y a des chances qu'il reste
à l'intérieur. Ça le confirme.
Oui, plutôt. Mais justement, c'est fait un peu exprès. Alors, il va dans un commissariat dans le Val-d'Oise parce que les policiers ne sont pas contents en ce moment. Ils ne sont pas contents à l'approche des Jeux Olympiques. Ils réclament à être mieux payés, à être mieux considérés. Et parce qu'on leur a dit qu'ils n'auraient pas de vacances pendant la période des Jeux Olympiques. Et il y en a un qui peut être jaloux, éventuellement, du fait que Attal soit à Matignon, c'est Gérald Darmanin.
Vous l'avez vu un peu sur les images ?
Et on le voit, et sa jalousie est criante, je puis dire. Sa jalousie est criante sur les images. Je parle de la jalousie de Darmanin, qui a un sourire en coin, qui voit que d'ailleurs Monsieur Attal ne maîtrise peut-être pas tout à fait les grades de la police. Enfin bon, tout ça, il est amusé. On sent qu'il est amusé. Donc la méthode Attal, c'est quoi ? La méthode Attal, c'est on va la découvrir.
Oui.
Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que il va falloir. Et il l'a exprimé hier dans son discours face à Madame Borne. L'histoire des classes moyennes, c'est pas un gadget. C'est ça qui vise.
Et ça, on va en parler au cours de cette émission. Vous avez raison.
Doublé d'une chose,
oui,
c'est que la personne à qui il rend le plus hommage hier, c'est Jean Castex,
oui,
beaucoup plus qu'aux deux autres premiers ministres. Et Jean Castex, c'est quoi ? C'est l'incarnation, justement, peut-être, des classes moyennes, avec la province, avec une autre façon de parler, de s'exprimer.
Et ça, nous allons en reparler longuement au cours de cette émission. Vous avez raison, puisque ça semble être la matrice politique
complète
de la stratégie de Gabriel Attal, qui n'est pas sans lien avec ce qui va se passer des européennes, du Rassemblement national.
Exactement.
On va en parler dans un instant. Si on reste sur ses premiers pas, est-ce que vous êtes d'accord, Nathalie Saint-Cricq, pour dire que l'un des enjeux de ses premières heures, de ses premiers jours, c'est une question d'autorité ? C'est-à-dire, à un moment donné, de montrer que c'est lui le boss ?
Mais c'est effectivement compliqué d'abord parce que beaucoup se sont, dans l'opposition, se sont emparés du « c'est le clone de Emmanuel Macron » ou alors « mini-moi », comme si c'était une espèce de pâle copie, un jeune homme, quoi, un jeune homme bien poli, bien sage, qui serait juste une marionnette. Donc ça, il a intérêt à montrer qu'il existe. Et d'ailleurs, on verra dans le remaniement, enfin dans la constitution du gouvernement, quel est son degré d'existence. Ensuite, parce qu'il sait très bien qu'il est attendu avec des fusils à tirer dans les coins, notamment par Gérald Darmanin, qui d'ailleurs s'est autoproclamé ministre de l'Intérieur, sortant et rentrant en disant « moi j'ai parlé avec le président », du genre l'autre, là, c'est un petit peu secondaire. Nous avons une démarche un petit peu similaire de Bruno Le Maire, en gros, mais qui est faite avec plus de, comment on dit, un peu plus de finesse. C'est-à-dire que Bruno Le Maire laisse entendre qu'il adoube, alors que c'est pas dans ce sens-là normalement que ça se passe, y compris avec la photo sur Twitter où il a la main sur l'épaule de, du petit bonhomme qu'il faut aider. Quand
on va essayer de la retrouver, cette photo.
Et donc, il y a, effectivement, il a besoin de montrer, et il se trouve aussi que dans les derniers jours, enfin les dernières semaines de Mme Borne, il y avait une espèce de flottement, c'est-à-dire qu'en gros, les ministres faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, voire ne faisaient rien, et qu'elle avait beaucoup de mal à imprimer sa marque, ses ordres. Et en gros, l'image de Gabriel Attal, comme il est, il a une bonne tête, comme il est jeune, comme il a un air juvénile, c'est de se grandir un peu en stature, en parole et en directive, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression que c'est un premier communiant qui n'a rien vu, alors qu'il est vraiment tout le contraire d'un premier communiant qui n'a rien vu.
Et vous parliez de Gérald Darmanin, certains y ont vu un tacle au nouveau Premier ministre. Lors d'un point presse ce matin, le ex-nouveau futur ministre de l'Intérieur auto-désigné dit « là d'où je viens, de province, virgule, d'une famille populaire, virgule, on aime bien terminer ce que l'on fait. »
On aime bien tout l'inverse de la table.
Il fait la lutte des classes, en clair.
C'est ça.
Oui, alors, c'est vrai que cette critique en termes de « il a fait des sauts de puce, il n'a pas de bilan, il n'est pas resté longtemps dans ses fonctions », elles sont objectivement réelles. Mais ce qui est intéressant, il est arrivé sur ses différentes fonctions ministérielles, Gabriel Attal, à montrer qu'il était dans une logique de rupture et de distinction par rapport à ses prédécesseurs, ce qui fait oublier peut-être un bilan faible. Distinction lorsqu'il a été nommé porte-parole par rapport à Sibeth Ndiaye, distinction et rupture bien sûr à l'éducation nationale face à un Pape Ndiaye inconnu des Français qui parlait peu, qui incarnait peu, et puis ce premier déplacement hier dans le Pas-de-Calais, et Yves l'a très bien dit, c'est vrai que c'était pas du tout la méthode Borne. On se souvient d'Élisabeth Borne après les émeutes urbaines, lorsqu'elle vient cajoler, si je puis dire, le maire de l'Aigle-et-Rose, Vincent Jeanbrun. Oui. Elle était très empruntée. Là, vraiment, il est dans cette logique de distinction. Et la méthode Attal, moi, je trouve qu'il y a un vrai point commun, non pas avec Emmanuel Macron, et on en parlera, mini-moi, une image très proche.
Le clone.
Ce n'est absolument pas ce que nous disent les Français. Mmh. Si je peux le dire, il y a deux dimensions où ils sont extrêmement différents. Le parler vrai, le discours, la clarté. Attal est très clair. Emmanuel Macron, parfois, est un peu abscon. Et puis, je l'avais dit dans cette émission, la grille de lecture en termes d'inaction qui s'est enquistée autour d'Emmanuel Macron, malgré les 5 mois passés à l'éducation nationale, les Français, spontanément, dans des enquêtes qualitatives, citent le choc des savoirs, citent la baïa, citent le harcèlement scolaire, citent les épreuves du bac de première qui auront lieu non pas en mars, mais au mois de juin. Donc, ils sont extrêmement différents. Moi, ça me rappelle plutôt le Sarkozy 2002-2007, premier déplacement dans un commissariat du Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis, il y reste quasiment toute la nuit. C'est ça peut-être la filiation.
Il a visité il y a peu de temps.
En plus.
Avec qui il est allé déjeuner il y a peu de temps.
Voilà. Et là, j'en reviens au dernier article de Dominique Seux. Un nouveau Matignon pour la punchline et le faire savoir. Quand on regarde ces 24 premières heures, on se dit qu'effectivement, sur le faire savoir, il n'est pas mauvais.
Il n'est pas mauvais. Alors, on ne sait pas encore très bien sur le savoir-faire. C'est évidemment la grand point d'interrogation. Est-ce que quand il aura des dossiers très concrets, très techniques, l'énorme différence entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal, c'est que l'une s'affichait, se revendiquait, se souhaitait technicienne. Peut-être en dehors de la dernière période d'immigration, mais elle était technicienne. Lui est un pur politique. On verra s'il a davantage. Mais il a ça. Il a, on l'a vu pendant la réforme des retraites, on se souvient à l'Assemblée, que ce soit pendant la réforme des retraites ou lors des questions d'actualité, il avait trouvé des formules. Je ne sais pas s'il a quelqu'un dans son équipe qui l'aide à réfléchir et trouver des bons mots, des choses qui frappent l'opinion, mais il a réussi et il a percé le mur du son. Donc, hier dans le discours, son quasi-discours de politique générale, il n'a pas encore montré ça. Mais on sait que ça existe. Après, tout son enjeu, ça va être effectivement de répondre à une commande d'Emmanuel Macron qui est, ces derniers mois, le gouvernement n'a pas su valoriser suffisamment les résultats. Les résultats que Emmanuel Macron estime bons. Donc la commande, ça va être de ça. Dites ce que l'on fait. Montrez-le, montrez des bons résultats. Mais ça ne veut pas dire que Gabriel Attal aura une liberté totale. Moi, j'en veux pour preuve la nomination, le choix qui a été fait du directeur de cabinet qui est Emmanuel Moulin. Alors évidemment, pour les téléspectateurs, Emmanuel Moulin...
Alors qui est Emmanuel Moulin?
Ça ne dit rien, mais c'est quelqu'un de très important dans l'appareil d'État. Il est aujourd'hui, jusqu'à hier soir, il était directeur du Trésor, c'est-à-dire de la principale administration du ministère des Finances, mais surtout ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Conseiller de Nicolas Sarkozy pendant la crise de 2008-2009. Donc il a un cursus, donc il a été proposé, voire imposé par Emmanuel Macron, sans aucun doute, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, et il aura un lien avec Bruno Le Maire, si Bruno Le Maire reste, qui paraît quand même assez probable, parce que je ne vois pas Emmanuel Moulin allant à Matignon avec Bruno Le Maire partant.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelle leçon politique vous en tirez? Le fait qu'il soit cornaqué, alors c'est un peu violent ce que je dis, mais en tout cas qu'il soit, qu'on lui impose peut-être un directeur de cabinet qui soit un ex de Bercy, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire trois choses. La première, c'est qu'on met quelqu'un d'expérience, puisque Gabriel Attal n'a pas beaucoup d'expérience. On met ensuite quelqu'un qui d'expérience politique pour l'instant sur les dossiers les plus lourds de l'État.
Oui. Certains sont arrivés à Matignon sans avoir été ministre. Hein.
C'est vrai, absolument, mais ils étaient aussi cornaqués par des conseillers.
Ça avait été le cas pour ses deux prédécesseurs, avec Isabelle Borne, Aurélien Rousseau et Jean Castex.
On va laisser finir, Dominique, si vous voulez.
Le deuxième point, donc, c'est que l'Élysée a son mot à dire. Et le troisième, c'est le choix d'un profil plutôt économique. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Les directeurs de cabinet, c'est souvent un profil régalien, voire social. Profil économique, je n'ai pas de souvenir très récent.
Et donc,
pour l'avenir, c'est important. Certains portraits avaient dit qu'ils partaient en vacances.
Alors, je crois que vous avez énormément de choses à dire sur Emmanuel Moulin. Je vous promets qu'on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on voit le premier reportage, parce qu'on a envie de les voir, ces images. En 24 heures, le nouveau Premier ministre, effectivement, a donné le ton de la méthode Attal, déplacement rapide dans le Pas-de-Calais, visite dans le commissariat du Val-d'Oise cet après-midi, avec celui qu'on dit quand même un peu froissé par sa nomination, à savoir Gérald Darmanin, déjeuner de 2 heures aujourd'hui avec le président. Saturer l'espace médiatique avec un message clair, le jeune Premier ministre est dans l'action. Magali Lacrouze, Christophe Roquet.
Est-ce un sourire de façade ou un vrai bon moment dans le froid du Val d'Oise? Le nouveau Premier ministre et son ministre de l'Intérieur sont arrivés cet après-midi dans un commissariat où Gabriel Attal délivre son message du jour. Pas de sécurité sans nos policiers.
Vous travaillez ici depuis combien de temps?
Depuis mars 2022.
Et avant, vous étiez où?
À la préfecture, au service de l'éloignement.
D'accord.
Voilà.
Merci en tout cas pour votre travail au quotidien, pour la sécurité de nos concitoyens.
Merci
beaucoup.
Quelques heures plus tôt, Gabriel Attal était dans le Pas-de-Calais à la rencontre des habitants durement touchés par les inondations.
Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village.
Oui, tout à fait.
Vous ne baisserez pas les bras. Ça se sent. On sera là pour
vous.
On sera là pour vous.
Si certains voient en lui une réplique du président, en un peu plus jeune, voire sa copie conforme, 24 heures après avoir été nommé, les sondages du Premier ministre Attal sont toujours aussi bons que ceux du ministre Attal. Un Français sur deux lui ferait confiance. Dans le monde politique, il y a ceux qui ne veulent pas critiquer, mais quand même, il est un peu jeune.
Oui, le choix de la jeunesse, mais c'est le Premier ministre de mon pays, de notre pays. Il est à la tête du gouvernement. Qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que ça se passe le mieux possible pour mon pays et que la situation pour les Français s'améliore. Alors je souhaite sa réussite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font un procès d'intention.
Comme le président du Modem, qui aurait fait un autre choix et qui a eu quelques questions personnelles.
J'ai émis deux interrogations. La première, quitter le ministère de l'Éducation alors qu'on vient d'y rentrer et qu'on a fait naître un espoir était un problème. La deuxième, c'était celle de l'expérience nécessaire pour être à la tête du gouvernement d'un pays qui traverse de si profondes difficultés.
Pour tout adversaire politique, la popularité est un vilain défaut. À gauche, on regretterait presque l'ancienne première ministre, un peu moins communicante.
Mais attendez, d'abord, le succès de Gabriel Attal, on parle, je crois, de son bilan au ministère de l'Éducation nationale, c'est ça, qui fait qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe des classes surchargées, qui fait qu'aujourd'hui, en France, les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieure à la moyenne de l'OCDE. Gabriel Attal fait essentiellement de la communication. Et je crois que les Françaises et les Français, ils attendent d'avoir des dirigeants qui changent leur vie, qui font en sorte que la situation soit moins difficile.
Félicité par le chancelier allemand pour son nouveau poste, Gabriel Attal fait aussi parler de lui dans la presse internationale. L'enfant prodige de la politique française pour El País, l'exact opposé de Salvini pour La Repubblica, le Brutus de Macron, pourra-t-il arrêter Le Pen, se demande le magazine anglais. Et en effet, le RN est sur ses gardes. Voilà un Premier ministre dont la jeunesse rappelle celle du président du Rassemblement national, mais officiellement, pas d'inquiétude.
On l'a vu avec M. Darmanin, qui avait été annoncé il y a 2 ans, moi j'ai un peu de mémoire, pareil comme une arme anti-RN. Et en fait, non, le fait de valider nos thèses... rend possible et probable et souhaitable, en réalité, aux yeux des Français, notre arrivée au pouvoir. L'original gagne toujours sur la mauvaise copie ou la pâle copie.
Hier soir et ce midi, Gabriel Attal a dîné, déjeuné avec le président à l'Élysée. Le casting gouvernemental est en cours.
Alors justement, le casting gouvernemental, on va passer peut-être vite là-dessus, je ne sais pas où vous en êtes des rumeurs, mais à quand un gouvernement au travail, nous demande Yves dans le Morbihan. Bah, à quand?
Bon, ça serait bien avant le week-end, enfin, c'est prévu comme ça. Ils laissent entendre qu'ils sont décidés, et qu'étant décidés et voulant faire quelque chose, ils vont le faire vite. En général, Gabriel Attal va relativement vite. On peut imaginer aussi qu'ils y ont pensé avant. Mmh. Alors leur seul problème, c'est que comme il y a pas mal de gros... de poids lourds, je veux dire, qui sont déjà en place, comme si Bruno Le Maire reste, si Darmanin reste, si Dupond-Moretti, c'est qu'il va falloir trouver un petit peu de nouveauté pour donner l'impression que ça va dans le sens d'Attal, c'est un vrai changement. Alors, souvent, avec toujours le problème des femmes, le problème, est-ce qu'on punit ceux qui avaient des états d'âme au moment de la loi immigration, ou est-ce qu'on les punit pas tous, sachant qu'ils sont de l'aile gauche? Bon, mais logiquement, on nous promet avant le week-end. Enfin, on nous a promis tellement de choses.
Oui, et qu'on nous promet aussi un gouvernement resserré. Ça,
alors là, ils ont l'air d'être décidés quand même. Non, mais je sais que c'est un pont aux ânes, mais ils ont l'air, ils vont une quinzaine en moins, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on en a 39, avec les secrétaires d'État, et là, c'est quand même, et des pôles, c'est-à-dire il pourrait y avoir éducation, sport, il pourrait y avoir des grands pôles, pour donner l'impression, effectivement, que c'est un pack, et non pas une dispersion de gens qui vont dans tous les sens.
Yves Tréa.
Oui, non, je pense que deux choses. D'abord, l'effet de souffle, c'est Attal.
Donc, peu importe le reste.
Non, pas peu importe. Ah. L'effet de souffle étant Attal, il a moins besoin, le président de la République, parce que c'est quand même lui qui a le dernier mot, de nommer à tel ou tel endroit des symboles, comme il avait fait avec Dupond-Moretti la dernière fois, qui avait été un symbole important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le gouvernement resserré, on nous le resserre à chaque fois. à tous les sens du terme, d'ailleurs, dans les deux acceptions du terme, et moralité, à chaque fois, on se retrouve avec, au bout d'une semaine, des secrétaires d'État qui viennent s'ajouter, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est pas très important, et c'est pas ce qu'attendent les Français. Mmh. Moi, je pense que ce qu'attendent les Français, surtout, c'est qu'ils s'attaquent tout de suite aux urgences les plus impérieuses.
Ce qu'il a fait cet après-midi, Frère, lorsqu'il a parlé de l'ordre et de la sécurité.
Ce qu'il a fait cet après-midi, l'ordre, la sécurité, le pouvoir d'achat. Il va y avoir des choses qui vont... Parce que les chiffres sur l'insécurité, en plus, sont tombés. Ils sont extrêmement mauvais. Donc, il va falloir qu'il s'attelle à ça très, très vite. Et la seconde chose qu'on a dite tout à l'heure d'une façon, c'est qu'il va falloir qu'il impose sa marque. Et là, le grand problème de Attal, c'est comment il va pouvoir exister avec Macron.
Ah oui, vous êtes d'accord avec Gérard Larcher qui dit l'hyperprésidentialisation sera le problème d'Attal.
Le premier problème de Gabriel Attal, son principal obstacle, c'est Emmanuel Macron. Souvenez-vous, alors là, on va très vite être fixé. Le président de la République nous a promis un grand rendez-vous là au courant du mois de janvier.
Plusieurs.
Deuxième quinzaine. Voilà. Première chose. Deuxième chose, Gabriel Attal doit faire un discours de politique générale à l'Assemblée nationale, au Parlement même, parce qu'au Sénat aussi. Et on se souvient qu'en 2017, eh bien, le président de la République avait fait un discours au Congrès,
ah oui.
Sénat, Assemblée nationale réunie, la veille du discours de politique générale de Édouard Philippe. Si, c'est symboliquement, c'est très gênant, et ça coupe l'herbe sous le pied.
Yves Tréhard, il lui doit tout, et il le dit, et il l'assume.
Oui, vous savez ce que c'est que la politique. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et celui qui a dit ça, d'ailleurs, c'est un des plus jeunes premiers ministres de la République.
Qui devait tout à Mitterrand.
Il s'appelait Laurent Fabius, qui devait tout à Mitterrand. Ouais. Et il n'a pas mis de temps à dire « lui, c'est lui, moi, c'est moi ». Et d'ailleurs, Mitterrand, intelligent, s'en est très bien accommodé. Donc, Emmanuel Macron devrait s'en accommoder, si c'est comme ça que ça se déroule, parce que Emmanuel Macron aurait tout intérêt à prendre un peu de champ par rapport à la politique au jour le jour, ce qui lui permettrait probablement de regagner en autorité et en popularité.
C'est pas le genre, hein.
Deux choses sur le gouvernement resserré. On peut d'autant moins y croire que les parlementaires de la majorité ont vraiment envie de rentrer pour certains dans le gouvernement. C'est un peu la dernière occasion avant la fin du quinquennat. Enfin, il n'y aura pas beaucoup. Et donc, il y a une pression des parlementaires. Il y a un nombre de coups de fil, de SMS dans tous les sens. Donc, je ne crois pas tellement au gouvernement resserré. C'est très important ce que vient de dire Yves Tréhard sur est-ce que le discours de politique générale permettra de voir un président et un Premier ministre qui se collent complètement. En 2017, il s'était passé quelque chose d'absolument incroyable, qui est qu'Édouard Philippe avait annoncé le report ultérieur à plus tard de la suppression de l'impôt sur la fortune. Emmanuel Macron avait été fou de rage de ça, et il avait corrigé une semaine après le discours de politique générale de son Premier ministre. Je ne crois pas que cette fois-ci, on assiste à, j'allais dire, un décollement aussi net, mais l'enjeu va être absolument considérable.
Frédéric David.
Ça va être assez fondamental, mais je partage complètement ce qui vient d'être dit. Les Français ne sont pas sur une logique de casting, ils sont sur une logique de résultat, d'efficacité et de détermination. Et c'est vrai que l'effet souffle Attal se suffit à lui-même. C'est vrai que pour Emmanuel Macron, c'est un triple défi. Pour la première fois, un chef de gouvernement plus jeune, plus populaire que lui, 20 points, c'était monté à 40 points lorsque Manuel Valls avait été nommé par François Hollande, et un chef de gouvernement plus connu que ses prédécesseurs, qui a une image différente de celle du chef de l'État. Je reviens là-dessus, notamment sur l'autorité. Emmanuel Macron, depuis quelque temps, un doute. Les mots comme girouette, un jour c'est noir, un jour c'est blanc, émergent dans les enquêtes qualitatives contre lui, sur lui plutôt. Alors que sur Gabriel Attal, il y a l'idée qu'il y a un vrai cap et une cohérence, on l'a vu, à l'éducation nationale. Mais c'est vrai que là où il y a un vrai problème, et je reviens sur la phrase de François Bayrou, vue lors de votre reportage, il a fait naître une attente extraordinaire à l'éducation, qui est vue comme une institution en déclin, perclus de problèmes et de crises. Partir comme ça, il l'a fait lorsqu'il a dit « j'amène avec moi l'école à Matignon ». Ce genre de phrase est importante, ça ne suffira pas. Il doit absolument, d'une manière ou d'une autre, montrer que l'éducation, c'est toujours lui.
Frédéric Dabi, il arrive avec un énorme potentiel quand on le compare à ses prédécesseurs. Ce sondage publié cet après-midi, 56% de la population lui fait confiance. C'est mieux que lors de l'arrivée d'Édouard Philippe ou d'Elisabeth Borne. Il y a une grosse attente, c'est ça?
Tout à fait. On a une enquête qui sort demain avec Sur Radio qui donne cette même tendance avec 7 points de plus par rapport à sa prédécesseur Elisabeth Borne. Il y a une attente extrêmement forte. On sait très bien. Je vais donner quelques exemples. En 1995, Alain Juppé est au Zénith. En à peine 2 mois, il y a un véritable effondrement. C'est une autre affaire. C'est des promesses non tenues. Mais effectivement, il joue gros, même si je trouve, quand on regarde son parcours passé, la méthode Attal s'est collé à 2 attentes très fortes exprimées par les Français vis-à-vis du politique. D'abord, dire les choses, ne pas être dans le déni, être dans les vrais constats. Exemple, le classement PISA, on en avait parlé, c'est-à-dire, il dit, nous sommes nuls, il faut agir, il ne se cache pas. Et puis, l'action, la décision, la transformation. Alors, ça sera plus difficile à Matignon, il va être attendu notamment sur l'expérience, autant sa génération est très peu évoquée par les Français, le manque d'expérience peut être un vrai problème, mais s'il arrive à garder ces deux piliers, constat, action, il a peut-être des jours heureux dans l'affaire de Matignon.
Est-ce qu'il est l'arme anti-RN d'Emmanuel Macron ?
Il l'est en partie, puisqu'il est jeune, comme Jordan Bardella, que ce sont les enfants de la télé, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune, qui ont une facilité à débattre et à combattre, et nous on le sait. Enfin, je dis nous pas parce que simplement quand on proposait des débats, il y en a deux qui étaient toujours partants, c'était eux. Même s'il y avait un enjeu, même si c'était difficile, le nombre de planqués qui existaient était extrêmement grand. Quand là, Gabriel Attal, lui, a toujours été devant et il a une certaine maîtrise de ce genre de choses, comme il est très fin politicien et très malin de façon générale, il peut effectivement, un, être efficace, d'abord pour l'entrain, parce que c'est vrai qu'il est, il n'est pas usé, qu'il a une façon un petit peu de parler qui est très assez communicative, et puis parce qu'il connaît bien ses dossiers et qu'il peut démonter un certain nombre de choses qui sont dans le programme du Rassemblement national et qui manquent de cohérence. Mais juste un point, tout à l'heure, il y avait la presse britannique qui parlait de Brutus. Alors, c'est un peu exagéré, Brutus, parce que Brutus, c'est celui qui tue son père. Oui. Enfin, c'est son père adoptif, mais enfin, ça ne change pas grand-chose avec Jules César qui lui dit « Toi aussi, mon fils, tu m'as trahi. » Bon. Mais dire que Gabriel Attal doit tout à Emmanuel Macron, ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire, il travaille, il fait des choses, et Emmanuel Macron aurait, à mon avis, intérêt à prendre, effectivement, non seulement du champ, mais de l'âge et de là, et à le voir avec bienveillance, prendre la lumière, parce qu'il a intérêt, Emmanuel Macron, à ce que la popularité de Gabriel Attal soit une espèce de transfusion, une espèce de petite cure de jouvence et d'énergie et de cote de popularité, et non pas le cornaquer sans arrêt, en l'empêchant de vivre, parce que pour le coup, ils vont tomber tous les deux.
Oui, alors, ce serait un nouveau Emmanuel Macron. Oui.
Bah, c'est-à-dire que, voilà,
pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il a fait.
Ce qui plaît chez Gabriel Attal, c'est ce qu'il est. Si on le transforme en quelqu'un qui doit et qui se fait corriger, comme avec le prof qui donne des taquets à son élève.
Oui, je reviens sur votre discussion de tout à l'heure du fameux Emmanuel Moulin qui débarque de Bercy pour être directeur de cabinet à Matignon. Ça donne le sentiment, et qui est un proche d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, ça donne plutôt le sentiment.
Mais ça peut également l'aider, parce que pour l'instant, ce qu'a fait Gabriel Attal, finalement, y compris à l'école, c'est annoncer des choses qui plaisent à tout le monde. C'est-à-dire, quand vous dites, en gros, on ne va pas aller en abaya, globalement, les Français sont pour. Non. Quand on dit, ceux qui sont nuls et qui font rien, on ne va pas les faire passer dans la classe supérieure, tout le monde est d'accord. Ouais. Donc, il a fait des choses qui sont sympathiques à tout le monde. Ouais. Quand il va commencer à se colter à des choses extrêmement impopulaires, alors, il en aura moins qu'Elisabeth Borne, puisque manifestement, le gros est passé.
Écoutez, oui et non. Parce que
alors, Dominique Seux, sur les bonnes nouvelles de 2024.
L'enthousiasme, effectivement, l'état de grâce qui est là depuis quelques heures. Mais les décisions qui arrivent, quelles sont-elles? J'en vois deux. J'en vois deux qui sont des décisions. Faut-il augmenter de 10% le tarif de l'électricité? Il y a une hausse qui est prévue le 1er février. Ce soir, on va sans doute apprendre que la Commission de régulation de l'électricité propose une hausse des tarifs de l'électricité. Et le gouvernement devra dire s'il augmente les taxes, en gros, est-ce que ça monte de 10%?
Il va dire oui.
Eh bien, le gouvernement est tenté de dire oui. Il faudra que le Premier ministre nouveau assume cette affaire-là. Et 10%, ça n'est pas rien. C'est la vie quotidienne. C'est le chauffage, l'éclairage, les voitures électriques pour recharge ou ce genre de choses. Mmh. Ça n'est pas rien. Premier sujet, à ce moment-là, vous rentrez un peu dans le réel. Deuxième sujet, le gouvernement doit dire dans les heures, dans les jours qui viennent, s'il double les franchises médicales sur les boîtes de médicaments. Ça allait très ennuyeux, très concret. Depuis 2008, aujourd'hui, vous payez 0,50 centimes d'euros sur chaque boîte de médicaments. C'est de votre poche. Dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, il avait été prévu que ça passe à 1 euro, y compris pour les consultations médicales. Pour l'instant, on n'a pas eu le oui. Le gouvernement a bien l'intention de dire oui à la fin. Il va falloir que quelqu'un l'assume.
Donc, Bruno Le Maire.
Ah ben Bruno Le Maire, alors c'est peut-être Bruno Le Maire, peut-être que la condition du maintien à Bercy, c'est d'assumer les mauvaises nouvelles.
Je ne sais pas.
Il n'est pas certain que le Premier ministre pourra passer complètement entre les gouttes.
Dominique, il va avoir beaucoup plus difficile à faire que ça. Mais oui, parce que ça, ce sont des décisions, vous faites oui ou non, vous n'avez pas d'opposition. Éventuellement, l'impopularité. Oui. Mais là où il est attendu, et c'est là où ça va être très dur pour lui, et c'est là où on va voir s'il est plus fin, plus malin qu'Elisabeth Borne. Il va y avoir le retour de la loi immigration.
Oui.
Et ça va être une sacrée paire de manches. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des censures du Conseil constitutionnel. Il y a la promesse de Mme Borne de revoir l'aide médicale d'État.
Par écrit, elle s'était engagée.
Et là, vous allez voir, là, c'est les députés les groupes de pression qui vont arriver contre lui. Alors que lui, jusqu'à présent, on dit qu'il a un petit bilan qui est sympathique à l'éducation, mais tout était réglementaire, circulaire, il n'est pas du tout passé par la loi. Il n'y avait pas d'opposition, effectivement. Il rentrait là-dedans comme dans du beurre. Tandis que là, ça va être très différent. Et les sujets qu'il va avoir à traiter maintenant, ce sont des sujets où il va être obligé de passer par la loi. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce qu'il a une majorité qui est relative, et il a une majorité qui est beaucoup plus divisée que celle de Mme Borne. Donc, ça va être, bah oui, parce qu'elle s'est fendue en mille morceaux avec l'exercice de Borne, hein, donc ça va être compliqué.
Est-ce qu'il a davantage de soutien qu'elle n'en avait à l'Assemblée nationale, étant un des premiers, des macronistes de la première heure? Est-ce qu'il a su fédérer autour de lui davantage qu'elle ne l'a fait?
Ça va être compliqué, parce que d'abord, il a une flexibilité qui est supérieure, me semble-t-il.
Plasticité
qui est très supérieure à Mme Borne. Ouais. Mme Borne a su faire preuve d'une espèce de largesse, mais lui, depuis le début, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, de gauche, de droite, non, c'est ce que Nathalie a dit, oui. De gauche, de droite, il peut être l'un et l'autre, lui, hein. c'est pas son problème. Hein.
Pragmatique, comme on dit.
Pragmatique. Et il peut avoir un nouveau langage, une nouvelle méthode, une nouvelle approche avec les députés et les sénateurs, parce qu'il faut compter avec le Sénat aujourd'hui aussi, et qui peut être intéressant. C'est là où il va être attendu. C'est ça qui va être capital.
C'est-à-dire que c'est là qu'on jaugera réellement l'efficacité, au-delà de la communication et du faire savoir qu'on a évoqué depuis le début de l'émission. Vous dites, Yves Tréhard, que c'est sur sa capacité à faire marcher cette majorité relative qu'on saura s'il a une méthode différente de celle d'Elisabeth Borne.
L'exemple de l'aide médicale de l'État est très intéressant, parce qu'Elisabeth Borne avait promis à la droite de réviser ça. Ouais. Et dans les couloirs, elle disait clairement, moi vivante, jamais. Ouais. Je ne passerai pas par la loi. On verra plus tard. Que va décider Gabriel Attal?
Est-ce qu'il ne peut pas dire... Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Elle s'est engagée par écrit, mais ce n'est pas ma décision. Ou est-ce qu'il y a une continuité de l'État?
Je pense qu'il ferait un toilettage. C'est la différence entre ce qu'est les possibilités. Pour avoir quelques infos, c'est que ça sera réexaminé, revu, peut-être un petit peu nettoyé. Comme ça, on fera sans faire tout en faisant.
Bon, en tout cas, c'est sans doute l'un des premiers messages politiques envoyés par le nouveau chef du gouvernement. Sa priorité sera de trouver une réponse à cette France qui travaille, qui finance le service public et qui parfois ne s'y retrouve pas, comme il l'a dit hier sur le perron de Matignon. Gabriel Attal choisit de mettre donc toute son attention sur les classes moyennes, comme il l'avait déjà fait lorsqu'il était ministre du budget, non sans arrière-pensée politique quand même. Manval, Juliette Vallon.
Après les remerciements d'usage sur le perron de Matignon,
Elisabeth, Madame la Première Ministre, merci pour tout.
C'est à une partie des Français que Gabriel Attal a voulu adresser son premier message.
Je pense aux classes moyennes, cœur battant de notre pays, artisans de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent, mais qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. Cette classe moyenne qui travaille et qui finance par son travail nos services publics et notre modèle social. Ces Français qui, parfois, ne s'y retrouvent plus.
Une longue tirade en forme d'hommage. Un électorat choyé depuis longtemps par le nouveau Premier ministre. Alors en charge des comptes publics, il promettait l'an passé des baisses d'impôts rapides aux classes moyennes, mettant en avant le bilan, tout spécialement pour elle, du gouvernement depuis 2017.
On a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé, baissé de 5 milliards d'euros l'impôt sur les revenus sur les premières tranches, défiscalisé les heures supplémentaires, permis la monétisation des RTT, revalorisé de manière inédite le barème de l'indemnité kilométrique. Cette année, nous avons un relèvement du crédit d'impôt, du plafond du crédit d'impôt pour la garde d'enfants. Tout ça, ce sont des mesures massives pour les classes moyennes.
Une communication qui virerait presque à l'obsession quelques semaines plus tard, quand Gabriel Attal dégaine son plan pour lutter contre la fraude fiscale des plus riches.
Chaque fraude est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable. Ma philosophie, c'est de concentrer les efforts sur eux et d'alléger la pression sur les classes moyennes.
Si le nouveau Premier ministre et derrière lui le président font un enjeu majeur, c'est que la classe moyenne pèse lourd. Selon un récent sondage, 72% des Français estiment à tort ou à raison en faire partie. Autant d'électeurs confrontés à l'inflation et au sentiment de déclassement, comme cette contrôleuse SNCF.
Les yaourts, pas de feuilleté, c'est fait.
Nous l'avions rencontré il y a quelques mois dans un supermarché à prix cassé.
Même avec 2000 euros, même si ça paraît énorme pour certains, on est obligé de tout regarder, de faire attention au prix, d'acheter que ce qu'on a besoin parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain.
La classe moyenne, enjeu électoral, au cœur d'un duel déjà lancé entre la Macronie et le RN. Depuis des mois, Jordan Bardella en a fait un sujet majeur pour les Européennes et bien au-delà.
La vérité, c'est que la classe moyenne devient de moins en moins une classe moyenne et devient de plus en plus une classe populaire. Parce que le problème, c'est que les classes moyennes, aujourd'hui ceux qui travaillent dans notre pays, sont contraints de payer pour tout le monde et eux n'ont jamais d'aide.
Sur le terrain, les députés du RN sont chargés d'aller chercher ces voix censées élargir le socle électoral de Marine Le Pen.
Comment va-t-il ?
Bien.
Impeccable, nickel.
Dans l'heure, par exemple, le député Kevin Mauvieux y travaille à chaque fois qu'il court le marché de sa ville de Pont-Audemer.
T'as pas le droit à la CAF, t'as pas le droit à la prime d'activité, j'ai le droit à rien. Que dalle.
Hein ? Ouais, c'est ce qu'on appelle une classe moyenne. T'es au milieu, t'es bien pour payer, mais t'es pas assez bien pour qu'on t'aide.
Voilà, exactement. Hein ?
Pour convaincre, il met en avant son parcours, lui-même ancien agent immobilier à 1600 euros par mois. Promet également des baisses d'impôts et une prise de distance vis-à-vis de Bruxelles.
Quand on leur dit qu'on veut sortir du marché européen de l'électricité et qu'on veut baisser la TVA sur l'électricité également de 20 à 5,5, ça leur parle aussi. Donc en réalité, les gens, ils ont bien compris, ces personnes de classe moyenne, qu'aujourd'hui, pour la question du pouvoir d'achat, de la méritocratie, de l'escalier social, le seul parti qui les écoute et qui fait preuve de bon sens, parce qu'en réalité, il s'agit juste de bon sens, c'est le Rassemblement national.
Le RN, qui fait pour l'heure la course en tête à 5 mois des européennes, avec jusqu'à 10 points d'avance sur la liste Renaissance dans les enquêtes d'opinion.
Alors nous allons revenir sur les classes moyennes, mais d'abord cette question de Gérard en Seine-Maritime. Avec 3 000 milliards de dettes publiques, que peut faire le Premier ministre, aussi brillant soit-il, y compris pour les classes moyennes d'ailleurs ?
Oui, distribuer du pouvoir d'achat et distribuer des chèques, c'est ce qui a été fait depuis des années et des années. Alors à la fois pour répondre à des crises au moment du Covid, des gilets jaunes, puis de la guerre en Ukraine, et puis de temps en temps de manière proactive. Mais c'est vrai qu'on est un peu au bout. Et quand on évoquait la hausse du tarif de l'électricité tout à l'heure, qui concerne de très près les classes moyennes, est-ce que l'État doit continuer à tirer des chèques, à organiser des boucliers, où il faut que ce soit un peu plus le consommateur qui paye et un peu moins le contribuable ? C'est un arbitrage infernal, parce que ce sont les mêmes quand même, au final, pour la majorité des cas. Et donc, il y a une vraie difficulté. Le gouvernement a fait un certain nombre de choses depuis 2017 pour les classes moyennes. La principale mesure, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Une mesure très visible, mais beaucoup plus anecdotique, c'est la suppression de la redevance. On pourrait ajouter d'autres choses. Il y a eu la baisse de 4-5 milliards de l'impôt sur le revenu. Il y a eu le doublement de la prime d'activité. Mais ce qui s'est passé, et la raison pour laquelle ça n'a pas percolé, elle est toute simple. C'est qu'en réalité, on a eu l'impression que le gouvernement payait ou contrebalançait par toutes ses décisions la décision initiale de supprimer l'impôt sur la fortune. Qu'il fallait en permanence remonter la pente pour cette décision qui était peut-être justifiée, sans doute justifiée, mais le gouvernement a remonté la pente. Écoutez, oui, écoutez, moi je fais des choses pour les classes moyennes. La réalité économique, c'est que depuis 2010, le pouvoir d'achat des classes moyennes n'a pas augmenté, en moyenne. Mais ça a augmenté de 30% depuis 1990, mais ça n'a plus augmenté depuis 2010.
D'où ce sentiment donc, d'appauvrissement.
D'où un sentiment terrible d'appauvrissement qui est lié à la succession d'une crise financière en 2008, d'une crise des dettes souveraines en 2010-2012, puis du Covid, puis de l'inflation. Et donc, là, nous sommes un petit peu... Enfin, nous sommes au pied du mur. Il n'y a plus les moyens pour le faire, et il n'y a plus d'argent pour le faire. Et donc la réponse de Gabriel Attal, répétée hier dans la cour de Matignon, c'est le travail. Le travail. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va remettre au travail un certain nombre de gens qui ne travaillent pas. Question du RSA, question de l'indemnisation du chômage. Mais est-ce qu'on peut augmenter les revenus ? Et là, c'est dans la main des entreprises.
Frédéric Dabi, le problème quand on dit classe moyenne, c'est que à qui on parle en fait ? Quand on interroge les Français, ils sont très nombreux à se considérer comme faisant appartenant à la classe moyenne.
C'est un atout pour un politique, parce que quand il parle des classes moyennes, il parle à tout le monde. Dans une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui a été faite à chaque décennie, on a entre 66 et 70%, c'est 72, oui, chez mes confrères d'Ipsos, des Français qui se considèrent comme des classes moyennes, comme d'être des Français du milieu. 16% des Français, seulement, plutôt tournons le chiffre à l'envers, 84% des Français considèrent que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les classes moyennes sont les perdantes. Alors que, Dominique, vous avez bien rappelé, il y a eu la baisse des cotisations sociales qui ont aussi donné du pouvoir d'achat, parce qu'il y a ce sentiment d'être pris en étau. Trop riche pour être éligible aux aides sociales réservées aux faibles revenus, mais pas les moyens de s'affranchir de certaines contraintes. Or, cette question des classes moyennes, alors quand on affine, il y a des classes moyennes véritables, des classes moyennes supérieures qui sont le socle du soutien à Emmanuel Macron, des classes moyennes inférieures qui se sentent en sentiment de déclassement, déclin collectif sur le pays et peur du déclassement personnel. La fameuse question, on a deux tiers de ces classes moyennes qui disent « mes enfants vivront sans doute moins bien que moi dans 10 ans ». Or, c'est la mère des batailles, non seulement pour les élections européennes, mais je pense pour l'élection présidentielle.
Mais par rapport aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, au Rassemblement national, qui en fait aussi un de ses objectifs, après avoir raflé l'électorat populaire, fixe son regard désormais sur ces classes moyennes.
Ah, ça a commencé depuis longtemps. Alors, ces classes moyennes, pour faire un panorama historique rapide, en 2007, elles vont massivement chez Nicolas Sarkozy, le travailler plus pour gagner plus. En 2012, très déçues, elles vont chez François Hollande. En 2017, elle croit à la rupture macronienne et en 2022, même si Emmanuel Macron a gagné l'élection, au premier tour, chez les salariés du secteur privé, chez les 50-64 ans, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête.
Yves Tréard, fixé par Gabriel Attal.
Je crois que Gabriel Attal a compris peut-être une chose, peut-être, c'est que l'histoire des classes moyennes, ce n'est pas uniquement sous un prisme économique qu'il faut le comprendre. Les classes moyennes, c'est ces classes moyennes qui ont peur de l'insécurité, qui ont peur de l'immigration, qui ont peur...
C'est pas exactement ce qu'il a dit hier.
Non, mais...
Il a parlé de cette
France... Quand il parle de l'éducation, parce que c'est un ensemble, ça. Et quand on regarde et quand on écoute aussi des reportages qui sont faits, et quand on va sur le terrain, qu'on voit que les gens ont peur d'être dépossédés d'une certaine façon, de leur façon de vivre, de leur art de vivre. C'est paniquement économique. C'est aussi le fait que les services publics ne sont plus au rendez-vous, que les déserts ruraux avec moins de médecins, moins de services publics, moins d'hôpitaux. C'est beaucoup plus général que ça. Et c'est ce qu'a compris d'ailleurs Bardella, c'est ce qu'a compris le Rassemblement National, c'est que leur discours aujourd'hui, il est un discours global, qui n'est pas uniquement axé sur la sécurité ou l'économie, il est général et il essaye de répondre à une crainte qui est une grande crainte d'une grande partie de la population qui n'est ni les minorités qui ont été considérées pendant quelques années quand même alors qu'elles étaient ignorées pendant longtemps sous le début de la Ve République, ni les élites qui de toute manière, elles, quoi qu'il arrive, elles peuvent s'en sortir.
Il parle de ces classes moyennes qui doutent. Oui. Qui doute, hein, c'est le mot qu'il utilise, doutent de notre pays et qui doutent d'eux-mêmes.
Quand vous doutez du pays, ça veut dire que vous doutez de son avenir.
C'est le déclassement, c'est le manque d'estime de soi, c'est le manque d'estime de la France, c'est le manque de... Alors, très bien, il va effectivement essayer de les cajoler d'un point de vue qualitatif. Alors, il y a tout le programme, les JO, on doit être fiers de nous, je sais pas quoi, enfin, plein de choses qui vont. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron disait notamment qu'il fallait couper, si j'ose dire, la séquence borne, parce que c'est une séquence qui nous renvoyait à nos difficultés et non pas à notre avenir. Donc, on peut considérer également que la jeunesse est un gage de foi en l'avenir. Mais quand même, quand il va se heurter à l'orthodoxie budgétaire récente, peut-être assez récente, je sais qu'il y a eu le Covid et tout ça, de Bruno Le Maire qui considère que c'est pas le moment de continuer à dépenser. Là, pour le coup, je pense que le qualitatif qui est d'essayer d'expliquer qu'on peut être plein d'espoir, que la vie est belle et qu'il ne faut pas être des ronchons et le pays le plus dépressif du monde alors qu'on a toutes les chances d'exister et d'espérer, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est vrai que le dur, la rentrée dans l'atmosphère sur des choses très concrètes, comme le disait Dominique, risque d'être un peu compliqué parce que, y compris quand il parlait du SNU, c'était très très bien. Service national universel dont on sait que finalement on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Toutes ces choses-là étaient un petit peu gazeuses, évanescentes. Et c'est vrai que Bruno Le Maire, là-dessus, ne lâchera pas. Parce que lui aussi prépare sa carrure, sa candidature, son statut de, même si c'est difficile, je sauverai les finances.
Mm-hmm. Moi, je pense qu'il y a un sous-titre qui est assez clair, en réalité, quand il parle de la moyenne et des classes moyennes, c'est « la solution ne passera pas par la redistribution ». On a beaucoup entendu dans le reportage un certain nombre de Français qui disent « on paye, mais on ne touche pas ». Oui. La solution en France depuis longtemps, c'est, on peut en penser ce qu'on veut, c'est de redistribuer. La France est un des pays qui redistribue le plus, que ce soit par les prestations, les impôts, etc. Bon. Et l'idée, c'est de dire, me semble-t-il, c'est par le travail et non pas par la redistribution que ça passera. Oui. Peut-être juste un mot pour clarifier pour les téléspectateurs ce que sont exactement les classes moyennes selon les définitions internationales. Les classes moyennes pour une personne seule, en France, c'est un revenu entre 1 450 euros et 3 800 euros, pour que chacun se sente ou pas concerné. Pour un couple avec deux enfants, c'est entre 3 000 et 8 000 euros.
Ah oui.
Donc on voit bien qu'en fait, ça va assez loin. C'était la fameuse 2 Français sur 3 de Valéry Giscard d'Estaing, ou des formules de ce type. Mais comme la France est un pays qui redistribue pas mal, en fait, il y a beaucoup de monde dans les classes moyennes. Mmh. En fait, nous avons plus de monde dans les classes moyennes en France qu'ailleurs. L'éventail des revenus aux États-Unis n'a strictement rien à voir avec ce qu'il est en France.
Est-ce qu'il fera un discours de politique générale, forcément ?
Ah oui, nécessairement.
Oui.
Est-ce qu'il engagera sa responsabilité ?
Ça, c'est la question. Mais à mon avis, non.
Et les oppositions lui mettent déjà une...
Chacun votre tour, s'il vous plaît.
Il aura, parce que d'abord, il y a une majorité relative. Madame Borne n'avait pas engagé sa responsabilité. Une majorité relative, qui est une majorité turbulente plus que jamais. Je ne vois pas comment il pourrait engager sa responsabilité.
Ce serait prendre un risque.
Ça serait prendre un risque énorme. Mmh. Et en plus, alors là, pour le coup, il y aurait une crise politique. Là.
Donc le Rassemblement national a dit qu'il ne voterait pas, ou il a laissé entendre qu'il ne voterait pas.
Oui, une motion de défiance.
Une motion de censure en disant on va lui laisser faire ses premiers pas. Ouais. Vous avez trouvé que les oppositions avaient trouvé un angle d'attaque à l'encontre de Gabriel Attal ? Pas encore.
Faiblard.
En tout cas, c'est l'angle d'attaque choisi par le parti du président pour contrer la poussée du Rassemblement national. Les liens entre le parti de Marine Le Pen et la Russie Renaissance a relayé ces derniers jours avec force une enquête du Washington Post qui affirme, document à l'appui, que le Rassemblement national serait en quelque sorte la courroie de transmission du Kremlin. Des informations démenti par le camp Le Pen qui évoque un procès en sorcellerie. Laura Rado et Romain Besnénou.
Avec son enquête, le Washington Post a gâché les fêtes de fin d'année au Rassemblement national. Le journal américain affirme, document à l'appui, que le parti de Marine Le Pen serait l'instrument de la Russie dans son plan pour déstabiliser l'Europe.
Les stratèges politiques du Kremlin ont reçu pour instruction de promouvoir la discorde politique en France à travers les médias sociaux et des personnalités politiques.
Une stratégie russe que le Washington Post dit avoir authentifiée.
Plusieurs tableaux de bord présentés de manière hebdomadaire aux responsables du Kremlin montrent que Moscou pense que la France était vulnérable aux troubles politiques.
Le RN serait en quelque sorte la courroie de transmission du Kremlin. Des intermédiaires lui transmettraient des éléments de langage favorables aux intérêts russes. Ils sont résumés en 2 axes principaux par le Washington Post. 1. Les sanctions contre la Russie affaibliraient l'économie française. 2. L'aide militaire à l'Ukraine ferait courir le risque d'une 3e guerre mondiale. Un argumentaire bel et bien utilisé par le RN.
Grand danger, et pardon, de penser à la France et aux Français, c'est la contagion de cette guerre en guerre mondiale. Est-ce que, en réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit ?
On voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques qu'on a prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses que pour le peuple français que pour la Russie qui est aujourd'hui noyée sous le cash.
D'après le journal, le Kremlin s'appuierait sur des études d'opinion en sa faveur. 30% des Français auraient encore une bonne image de la Russie et 40% ne croiraient pas les reportages sur l'Ukraine. Ne reste plus qu'à ajouter de l'huile sur le feu. Alors, le RN, marionnette de Vladimir Poutine.
Non mais c'est totalement bidon. Le Washington Post, qui est un journal engagé contre le Rassemblement national, relaie des données sans aucune source, totalement bidon. Je vous rappelle qu'il y a des choses qui sont objectives. Il y a eu une commission d'enquête qui a été menée à l'Assemblée nationale sur ce sujet et qui dit qu'aucun parti politique n'est sous l'influence russe, ne subit l'ingérence des Russes dans notre pays.
Cette commission parle pourtant bien d'un alignement systématique des positions du RN sur celles du Kremlin et évoque leurs liens financiers. En cause, un emprunt de 9 millions d'euros contracté par le parti auprès d'une banque russe en 2014.
Il s'agit là d'un procès en sorcellerie en quelque sorte.
Ces affaires sont en tout cas autant d'angles d'attaque pour la majorité. Loïc Signor,
le porte-parole de Renaissance, a même utilisé l'intelligence artificielle pour détourner les vœux de Marine Le Pen.
Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur en plein optimisme que je m'adresse à vous avec les meilleurs souhaits pour le prochain an. Новый год – это не только драгоценное время для встречи с друзьями.
À défaut de parler russe, Marine Le Pen est bien sous influence, selon cet autre représentant de la majorité, membre de la commission sur le sujet. Et la menace serait imminente.
C'est particulièrement inquiétant maintenant parce qu'on se retrouve à quelques mois des élections européennes et qu'on va sans doute avoir à nouveau un assaut de la part de la Russie, un assaut idéologique destiné à peser sur le résultat des élections européennes. Si un jour Marine Le Pen devait être au pouvoir, eh bien Marine Le Pen serait subordonnée aux décisions de Vladimir Poutine. Elle serait un relais parmi d'autres de ses décisions et de ses intérêts stratégiques. Elle ne serait plus que le simple cheval de Troie de la Russie au sein de l'Europe.
L'extrême droite est en tête des sondages pour les européennes en France, en Italie, aux Pays-Bas et en seconde position en Allemagne, où elle pourrait battre des records pour un tel scrutin.
Quand on regardait ce reportage, on se dit Gabriel Attal qui serait donc une arme anti-RN plus la charge sur les liens supposés entre le Rassemblement National et la Russie. La campagne est lancée, hein, celle des Européennes, Yves Tréard.
Ah oui, la campagne est lancée, évidemment. D'abord parce que dans l'esprit public, c'est comme des mid-termes, si vous voulez. On voit où on en est. Alors avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a tous ces moyens de communication. On sait qu'on est dans des oppositions occidentaux contre anti-occidentaux, ouais. Et que Poutine est un peu à la manœuvre là-dessus, qu'il est très très interventionniste dans les élections. Il l'a fait aux États-Unis, il l'a fait aux dernières européennes en France, il l'a fait aux dernières présidentielles en France, et là il va le refaire. C'est évident qu'il va le refaire, parce que même si Emmanuel Macron ne peut plus se représenter en 2027, ce que veut Poutine, c'est la peau d'Emmanuel Macron et la peau des dirigeants occidentaux dans le cadre...
Ça veut dire quoi, la peau? Ça veut dire dévaloriser son bilan.
Il veut les briser sur le plan politique. Mmh. Il veut déstabiliser l'Occident. C'est son objectif. Et un objectif affiché.
Ouais.
Affiché.
Il n'a pas essayé de le faire avant la réaction d'Emmanuel Macron, ça aurait été plus judicieux, non?
Il a essayé de le faire, mais il était en position un peu délicate, parce que sur le terrain ukrainien, il n'était pas très fiero, si je puis dire.
D'accord.
Mais là, maintenant, c'est un objectif affiché, de telle sorte que, pardon, je fais un petit pas de côté,
allez-y.
Cette guerre russo-ukrainienne est moins une guerre territoriale qu'une guerre entre blocs, si vous voulez. Et alors après, il y a ces trolls, finalement, pour essayer de montrer la face, une autre face du Rassemblement National. Mais je dirais que ce que révèle le Washington Post n'est pas vraiment nouveau.
Mais est-ce que c'est un argument de poids? On se souvient que c'était un argument utilisé par Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux-tours à l'endroit de Marine Le Pen. Est-ce que du coup, dans ce début de campagne, vous pensez que ça peut fragiliser, je mets de côté donc la nomination de Gabriel Attal plus ces informations relayées par le camp présidentiel sur les liens avec la Russie, ça peut peser?
Alors ça peut un peu peser pour un certain nombre de personnes qui considèrent que Poutine est capable de faire tout ça, mais le Rassemblement National qui dit écoutez, personne ne veut nous donner d'argent. Je vous rappelle qu'on avait parlé de la banque de la démocratie, c'est une idée de François Bayrou qui disait il n'y a aucune raison qu'un parti qu'on peut aimer ou détester, mais qui de toute façon jusqu'à nouvel ordre est autorisé et qu'on peut classifier comme on veut, mais qui est jusqu'à nouvel ordre à l'Assemblée nationale, qu'il ne puisse pas se financer sans avoir recours à des pays étrangers, c'est quelque chose qui est assez paradoxal. Donc il n'y a pas de banque de la démocratie, on n'en parle pas, et c'est une façon de bâillonner, et une fois de plus, c'est pas pour les défendre. Donc ça peut monter, et il y a des Français qui peuvent trouver que ça n'est pas juste. Par ailleurs, le côté parti de l'étranger, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur argument pour discréditer le Rassemblement National. De toute façon, ils n'ont pas forcément besoin de ça. C'est-à-dire que les prises de position de Marine Le Pen sur Vladimir Poutine et sur le conflit dès le début ont été relativement claires. Mais j'ai peur que les Français soient un peu franco-centrés et que c'est plus... elles ne soient pas suffisamment attaquées... affaibli par ce genre d'argument.
On voit bien quand même la ligne de défense qui est en train de se construire de la part de l'exécutif, du gouvernement, la majorité contre le Rassemblement National, c'est ils sont incompétents et ils se sont trompés sur quatre sujets. Ils étaient contre l'euro, qui doit être contre l'euro, ils ont changé d'avis. Ils étaient contre le vaccin et ils ont eu une attitude un peu louche sur le Covid. Ils ont soutenu Trump qui a finalement attaqué le Capitole et ils ont soutenu Vladimir Poutine alors que l'ensemble de l'Europe
n'y est pas favorable.
Sur ces quatre sujets, On sent bien, quand on entend les expressions des dernières semaines des représentants de la majorité, que c'est cet angle-là, reniement, incompétence, qui est celui qui va être.
Est-ce que le président de la République, en nommant Gabriel Attal, a essayé de construire un nouveau duel de la vie politique, à savoir Gabriel Attal contre Jordan Bardella? D'ailleurs, on a fait une petite comparaison des profils entre les deux. Donc, il y en a un qui a 34 ans, l'autre 28 ans, un qui est issu d'une école privée, l'autre de Seine-Saint-Denis. On voit leur parcours qui s'affiche là, qui sont. Similaire en un point, c'est qu'ils sont mis tous les deux très vite les mains sur le terrain, sur la politique, en étant conseillers et puis porte-parole. Ce débat va se jouer entre ces deux-là.
Mais il a déjà commencé. Rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, il y a même eu un reportage, je crois, sur Envoyé spécial, où on a vu à plusieurs reprises 7, 8, 10 débats dans des émissions périphériques au grand débat. Et comme cette campagne, il y a une campagne perçue comme tronquée, car il y avait quand même une faible campagne entre les différents candidats, on les a déjà vus. Et ils ont la même destinée, si je peux dire, sondagère. Hein. Percée en 2023 de Jordan Bardella, qui pour la première fois dans le baromètre match au mois de décembre dépasse d'un point, mais c'est symbolique, Marine Le Pen. Et puis, percée assez incroyable de Gabriel Attal. Quand je le teste pour la première fois en juillet 2020, porte-parole du gouvernement, 2/3 des Français ne le connaissent pas. Et au mois de décembre, il est pour la première fois le premier des ministres, dans le sens où il est plus populaire que Bruno Le Maire, qu'Olivier Véran et Gérald Darmanin.
Il y avait une question qui est passée là. Est-il un meilleur communicant, Jordan Bardella?
Il faut, indépendamment de ce goal, on peut penser. Ils sont très bons tous les deux. Ils travaillent beaucoup, parce que pour des gens qui, finalement, comme Jordan Bardella, n'est pas forcément un expert en fiscalité ou un certain nombre de choses ici émis, il paraît qu'on le forme de nouveau de manière à ce qu'il soit. Quand on l'entend dans un débat, Et puis ils ont peur de rien. Enfin, ils ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de grand-chose, si vous voulez. C'est des espèces de jeunes mâles testostéronés dans le débat politique et qui veulent en découdre et puis qui ont
une grosse ambition l'un et l'autre.
Mais bien sûr. Et qui vont globalement.
Ambition présidentielle, dit Claire, sans hésiter.
Et puis ils vont clairement périmer. Ils vont donner un coup de vue à tout le monde.
Ils donnent un coup de vue à tout le monde. Hein.
Ouais. Y compris au président de la République, à nous, dites-vous.
Il donne un coup de vieux au président de la République.
C'est assez frappant, d'ailleurs, quand on voit la campagne américaine qui va nous occuper une partie du temps d'ici
on a des 80 ans,
Et si on fait le total des âges de Gabriel Attal et Jordan Bardella,
ils sont plus jeunes.
De tête, 62 ans. On fait le total de Donald Trump et de Joe Biden, on est au-delà de
50 ans.
Allez, nous revenons maintenant à vos questions.
Macron plus Attal.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.